Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vers un équilibre digital de la Haute École Léonard de Vinci. Depuis nos studios, je vous accompagne dans cet épisode qui abordera la cyberdépendance. Nous allons essayer avec mes invités de vous donner des pistes de solutions afin d'adopter de bons gestes et de bonnes pratiques pour un usage raisonné des outils numériques qui nous entourent. Installez-vous confortablement et plongez-vous dans le monde passionnant de l'équilibre digital. Aujourd'hui, nous rencontrons Yves Collard, expert et formateur en éducation aux médias et médias animation, et Kim Ballara, psychologue à la Haute École Léonard de Vinci. Bonjour Yves, bonjour Kim.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Yves, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et également présenter aux auditeurs et auditrices le rôle de l'ASBL Média Animation ?
Donc, personnellement, je suis formateur expert en éducation aux médias et plus particulièrement, je m'intéresse aux pratiques et aux effets des médias, en quelque sorte ce que les médias nous font et ce que nous faisons aux médias. À l'intérieur d'une ASBL qui s'appelle Média Animation et qui est très active sur ce champ de l'éducation aux médias, mais de façon extrêmement vaste, hein, c'est-à-dire que nous travaillons aussi bien sur la question des usages des écrans que sur la question de la théorie du complot, la question des fake news, le cinéma. Et puis nous avons aussi des activités de recherche, notamment une recherche qui s'appelle Génération 2020, qui est une grande enquête auprès de plus de 1000 enfants et adolescents en Fédération Wallonie-Bruxelles pour tenter de déterminer quels sont leurs usages réels des médias, hein, au-delà de toutes les questions de pensée commune, hein, et d'idées un peu toutes faites autour des usages médiatiques.
Kim, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et également votre travail au sein de la Haute École Léonard de Vinci ?
Je m'appelle Kim Ballara et je suis psychologue pour la Haute École Léonard de Vinci. Et donc, je fais partie du service psychosocial où il y a à la fois des assistantes sociales et où je travaille en tant que psychologue où j'accueille les étudiants de manière individuelle, donc à leur demande. Ça peut être des questionnements, un mal-être, une recherche de solutions en interne ou en externe. Donc, par exemple, il m'arrive de réorienter les étudiants vers l'aide à la réussite, le service d'orientation notamment, ou alors en externe, que ça soit vers différents thérapeutes par rapport aux besoins. C'est vraiment l'idée de pouvoir être là en première ligne et accueillir la demande en interne. Les rendez-vous, tant au niveau des assistantes sociales qu'auprès de moi, sont gratuits et confidentiels. Et donc, on se trouve chacune sur... il y a une présence sur chaque site, donc à la fois à Louvain-la-Neuve, à Alma et à XL.
Merci. Le sujet qui nous intéresse dans ce podcast est la cyberdépendance. Pourriez-vous en donner une définition ? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme et où commence la cyberdépendance ?
Alors, il y a effectivement une définition qui est proposée par l'OMS qui d'abord détermine le champ de la cyberdépendance. Pour l'OMS, c'est ça depuis 2019. On n'est pas cyberdépendant aux écrans. On est cyberdépendant à des pratiques liées aux écrans. Et on n'est par exemple pas cyberdépendant aux réseaux sociaux. On est cyberdépendant, alors toujours d'après l'OMS, potentiellement aux jeux vidéo, ce que l'OMS appelle « video game disorder » ou aux jeux de hasard, hein, sur les écrans. Donc déjà, on n'est pas cyberdépendant à Facebook, Instagram, TikTok et toute la clique. Donc ça, c'est déjà le champ. Et puis, il y a une série d'effets, hein, qui sont liés à l'usage un peu excessif de ces écrans, mais uniquement dans la question des jeux vidéo, qui peuvent amener l'OMS à déterminer ou à formuler un diagnostic de cyberdépendance. Et c'est notamment la perte du contrôle sur ces activités d'écran, c'est la priorité que l'on donne aux activités d'écran et donc qui vont déborder sur d'autres activités. Et puis aussi, c'est l'idée potentiellement qu'il y a un retrait de la vie sociale pour plus de 6 mois. En tout cas, c'est ce que l'OMS affirme à propos de cette cyberdépendance. Donc on peut parler du coup de cyberdépendance plutôt comportementale, mais pas de cyberdépendance aux écrans, comme on pourrait avoir une dépendance à une toxicomanie quelconque. Il n'y a pas de substance psychotrope dans un écran.
Merci Yves. Comment savoir si on est sujet à ce type de mécanisme, à ce type de dépendance ?
Alors, L'OMS précise toujours qu'il y a une pathologie associée. Et on ne sait d'ailleurs pas trop si cette pathologie, c'est un terrain, si c'est un symptôme. Mais en tout cas, il y a toute une série de pathologies individuelles qui sont des signes, qui peuvent être des signes alarmants, c'est-à-dire associés à une cyberdépendance. On peut relater les cas de dépression profonde, d'autisme, de schizophrénie, de troubles de l'anxiété. Quelque chose sur quoi je voudrais insister aussi, c'est qu'il y a des contextes sociaux qui favorisent le développement potentiel de la cyberdépendance. Et ces contextes sociaux, c'est par exemple se situer dans un univers social, dans un contexte social problématique, par exemple une famille toxique, par exemple, hein, ou un entourage toxique, qui vont faire en sorte qu'on va se réfugier dans les écrans. C'est par exemple une caractéristique assez significative des adolescents qui sont harcelés. Bah, ils vont avoir tendance à se réfugier peut-être de manière excessive dans les écrans et donc être préparés à un terrain de cyberdépendance.
Merci. Et à ce titre, quelles peuvent être les conséquences sur la santé mentale et physique de ces individus ?
On peut dire, sans trop se tromper, qu'il y a effectivement une série d'effets. Hein, donc le développement d'une forme d'anxiété, une grande fatigue aussi. Alors ça, ce n'est pas négligeable, c'est peut-être le plus important. La difficulté à communiquer avec ses pairs. Hein, donc, alors c'est plus particulier chez les enfants, mais qui vont avoir tendance à avoir des difficultés de communication en direct avec leur père. Donc ça, ce sont différents éléments problématiques liés à certains effets potentiels de la cyberdépendance.
Donc pour compléter ce que vient de dire Yves sur les conséquences sur la santé mentale et physique, au niveau mental, il peut y avoir une certaine dispersion. Si on est tout le temps en train de courir après différentes applications, regarder les notifications, être tout le temps connecté et répondre tout le temps, ce qui fait qu'il peut y avoir une activation vraiment très élevée du système nerveux. Et du coup, vraiment non-stop, le cerveau qui va être sollicité et qui peut créer un espèce de brouillard mental où il y a une sollicitation constante et il n'y a pas de temps de pause pour le cerveau. Paf, notification de mail, téléphone, etc., montre connectée. Comme je dis, je tire un peu le trait à l'extrême. Et donc, avec une surstimulation du système nerveux. Et donc, avec, évidemment, comme ça a été dit, une grande activation du circuit de la récompense et donc qui peut avoir certaines conséquences. Ça peut aussi avoir un impact sur la qualité de la concentration, où il peut y avoir un temps de concentration qui est un peu diminué à force de consommer du contenu court. Cela peut impacter, mais à chaque fois, c'est à revoir au cas par cas, bien évidemment. Donc, il peut aussi y avoir des conséquences sur les fonctions exécutives, hein, par exemple, par rapport à la capacité de faire des choix, par rapport à la régulation des émotions, l'inhibition de l'impulsivité, enfin voilà, ça peut avoir finalement des petits impacts de manière assez étendue. Donc il peut y avoir aussi pour cette personne une certaine irritation, une tension si l'accès à Internet ou le téléphone, enfin ça dépend de quoi on parle évidemment, hein, quand c'est pas accessible. Et donc potentiellement une irritation, une attitude un peu tendue chez cette personne qui en souffre parce que voilà, c'est pas accessible. Donc il peut aussi être accompagné de pensées obsédantes, de dire tiens je vais regarder ça, j'ai envie d'être sur telle appli, faire ci, faire ça, voilà. Ça peut prendre beaucoup de place hein, finalement au niveau psychique. Et donc par rapport au comportement au niveau de la famille ou des amis, il peut y avoir aussi, chez certaines personnes,
des conséquences relationnelles.
Complètement, il peut y avoir. Hein. Donc c'est vraiment, ça peut être accompagné parfois un petit peu de honte et culpabilité, de dire tiens, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, les autres pas, tiens, de se comparer aux autres. Et donc voilà, un certain impact, comme ça a déjà été dit, relationnel, de prise de distance, où c'est un peu, on surinvestit certaines sphères au détriment d'autres. Comme ça a déjà été dit, c'est très chronophage. Et donc ça peut prendre une grande place. Et donc pour compléter, possiblement, parfois ça peut avoir un impact sur le sommeil, le cycle de sommeil, et donc potentiellement amener certaines insomnies. Donc c'est un peu un scénario catastrophe, mais ce sont des possibilités, donc juste à avoir en tête pour savoir, bah tiens, finalement, qu'est-ce qui est possible dans cette connexion extrême, entre guillemets, aux écrans à laquelle on pourrait participer.
Merci. Et comment agir en cas de cyberdépendance ?
Alors, c'est là qu'il me semble important de rappeler un peu que tout ça fonctionne comme une espèce de pyramide à base très large. Trop souvent, on a l'impression qu'un individu est cyberdépendant, alors que pas du tout. Et donc, il y a quatre niveaux là-dedans. Donc, le premier niveau, c'est finalement le niveau le plus courant. On va trop sur les écrans, mais ça ne pose aucun problème. Donc, on estime, alors ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les représentations adultes, hein, on estime qu'à partir de 3 heures d'écran, 4 heures, 5 heures, ça ne va plus, on est cyberdépendant. Alors qu'en fait, il y a une caractéristique là-dedans, c'est qu'on ne, il n'y a aucun effet problématique. Le seul problème que ça pose, c'est sur l'entourage qui s'inquiète et qui va trouver que les écrans sont moins légitimes qu'une autre activité. Hein, Flaubert, c'est quand même beaucoup plus intéressant que Fortnite. Et Flaubert, on peut y passer la nuit. Tandis que Fortnite, 3 heures, c'est déjà trop. Donc, déjà, un certain nombre de gens s'inquiètent à ce niveau-là, alors particulièrement les parents. Alors ça, c'est le premier niveau. Alors, il y a un premier niveau qui est problématique, c'est le simple niveau de la chronophagie, qui représente à peu près de 90% des cas problématiques. Autrement dit, l'activité d'écran prend tellement de temps qu'elle empêche un certain nombre d'activités, et notamment le sommeil. Alors ça, c'est le premier niveau problématique, hein, évidemment, qui nécessite que l'on mette en place des règles d'usage, au niveau du temps, simplement. Mais quand même, la grosse caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de perte de contrôle des activités de la part de l'individu. L'individu réussit toujours à l'école, passe ses examens sans encombre, a toujours autant de potes et peut-être même davantage d'amis s'il est sur les écrans que pas du tout. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à souligner. Donc ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui est à peu près 10% des cas problématiques, c'est la passion. L'individu non seulement passe beaucoup de temps sur les écrans, mais en plus est passionné par les activités hein, qu'il y mène. Alors, c'est problématique parce que non seulement il y passe beaucoup de temps, mais deuxièmement, il trouve ça beaucoup plus intéressant que tout le reste. Mais la grosse caractéristique, c'est la joie dans le partage. Hein. L'individu est heureux de faire découvrir ses nouveaux jeux, ses nouvelles activités. Alors, souvent, on confond cette étape-là avec la cyberdépendance parce qu'il y a une augmentation forte de l'activité à ce moment-là. Et la tendance est parfois à intervenir beaucoup trop tôt parce que dans nos sociétés occidentales, parfois le plaisir, et notamment le plaisir du jeu, est souvent réprimé comme étant quelque chose de tout à fait illégitime par rapport à d'autres activités. Et puis, il y a le dernier petit niveau, le pourcentage dont on a parlé, qui est véritablement la cyberdépendance, qui concerne alors, pour l'OMS, 4 à 5% des sujets problématiques. Bien entendu, il y a un pourcentage à peu près équivalent peut-être de sujets pré-problématiques. Et donc, l'individu peut tourner autour de ces quatre niveaux-là. Et à chaque fois, l'entourage est susceptible de s'inquiéter en se disant mais attention, cyberdépendance, il faut faire gaffe, il faut le sauver, alors que ça ne concerne que 4 ou 5% des usages problématiques.
Ces chiffres sont caractéristiques de la cyberdépendance au niveau mondial. Est-ce qu'on a des chiffres sur la cyberdépendance en Belgique ?
Alors, je ne connais pas les chiffres spécifiques pour la Belgique, mais ça doit être semblable. Je ne pense pas qu'il y ait des différences, par exemple, en termes de temps d'usage des écrans. Une fois qu'on a des écrans, on est plutôt dans une inflation d'usage ou dans une espèce d'aliénation par rapport aux écrans. Et donc, il n'y a pas, je pense, de caractéristiques culturelles. Le seul frein, potentiellement, c'est le coût, en fait, qui peut faire en sorte que certaines populations, parce qu'elles sont davantage exposées aux écrans, sont aussi davantage exposées aux cyberdépendances.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est particulièrement à risque ? Est-ce qu'il y a un public plus à risque qu'un autre ?
Alors, les adolescents sont un peu plus à risque que les autres, simplement parce que chez les adolescents, il y a peut-être une certaine forme de difficulté de régulation des activités. Il y a cette gourmandise pour les écrans qu'on a bien mesurée dans une enquête qui s'appelle Génération 2020. Et puis aussi, il y a à un certain âge, l'adolescent va se prendre de passion pour quelque chose. Du coup, il va davantage être dans la tranche des passionnés excessifs que des cyberdépendants. Et donc, c'est cette zone un peu curieuse où il est très difficile de poser un diagnostic entre passion dévorante et cyberdépendance réelle. Du reste, l'OMS, j'ai envie de le rappeler, estime qu'il est très compliqué de poser un diagnostic avant l'âge de 18 ans parce que l'adolescent de moins de 18 ans a des comportements par rapport à ces sujets d'intérêt qui ressemblent à quelque chose qui est la dépendance. Il faudrait pouvoir aussi se méfier, par exemple, beaucoup des métaphores qui sont liées à la drogue, par exemple. Hein. Donc, on ne peut certainement pas comparer un écran à une autre toxicomanie, enfin à une toxicomanie tout court.
Merci. Et finalement, comment peut-on aider quelqu'un de notre entourage que l'on pense être cyberdépendant ?
Évidemment, quand on est dans la cyberdépendance, il faut se tourner vers un professionnel, un psychologue, qui sera peut-être d'ailleurs un psychologue plutôt systémicien, dans la mesure où cette dépendance aux écrans peut peut-être être en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt de toute une série de problèmes, y compris familiaux, à l'intérieur de la famille. Et donc, aider les proches, hein, moi j'aime bien la règle des 3A, donc excluons le fait qu'on est dans la cyberdépendance pure et dure, mais qu'on est dans cette zone un petit peu complexe, hein, où on est dans la simple chronophagie ou dans la passion dévorante, pour moi, il y a la règle des 3 A. Le premier A, c'est l'autonomie, c'est-à-dire amener son proche, ou alors son enfant ou son adolescent, à devenir autonome et à pouvoir réguler lui-même ses propres activités. Ça passe par la mise en place d'un certain nombre de règles, notamment liées au moment de l'usage et à la durée de l'usage. Donc des règles, par exemple, pas les jours d'école, pas après 22 heures, pas 2 heures avant de dormir, enfin, des règles un petit peu qui dépendent fortement des valeurs du contexte familial. Mais donc mettre en place des règles pour que l'individu comprenne qu'il y a là quelque chose à mettre en place et que petit à petit, il puisse contourner ou aménager ou amender ses règles. Le rôle de l'entourage, c'est de pouvoir observer si les règles sont correctement mises en place. Hein. Donc ça, c'est le premier A, mettre en place des règles, lesquelles on s'en fiche, mais il en faut. Le deuxième A, c'est l'alternance. Il vaut mieux faire en sorte d'alterner les activités de l'écran et puis du sport, ou alors alterner des activités à l'intérieur même de l'écran, un peu de recherche, un peu de jeux vidéo, un peu de papote avec les amis, etc. Et troisième A, c'est l'accompagnement, considérer que les écrans, c'est un sujet de discussion, comme les autres, ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas le truc dont on se méfie comme on pourrait se méfier par exemple de l'alcool et donc on n'en parle jamais. On peut parler entre amis des écrans, il faut en parler et en faire un sujet de conversation comme les autres. Tiens, c'est quoi ton jeu préféré? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant là-dedans? Est-ce que ton prochain jeu, c'est quoi? Enfin, donc ne pas être dans la répression idiote par rapport à des activités qui sont avant tout des activités de divertissement. Et je le rappelle, pour l'OMS, à ce jour, la cyberdépendance ne concerne que les jeux vidéo forcément sur écran.
Donc pour compléter ce qui a déjà été apporté, dans un premier temps, je dirais qu'il y a quelque chose de très simple, c'est d'aller voir évidemment la personne, d'en parler, mais tout en parlant de soi, parler en jeu. Puisqu'avoir une attitude où on va un petit peu attaquer l'autre, tiens, je remarque que tu fais ci, tu fais ça, tu es tout le temps sur son téléphone, ça n'aide pas à la connexion et ça met un peu une distance et ça peut mettre un peu le sujet de côté. Alors plutôt de parler de toi, de dire, tiens, voilà, moi je constate que tu es sur ton phone et ça m'inquiète, j'aimerais passer plus de temps avec toi, etc. C'est beaucoup plus facile à entendre, donc évidemment dans la question du lien par rapport à l'autre. Et éventuellement, si la personne s'ouvre et parle de ce problème, qui est peut-être une souffrance chez elle, c'est de venir vraiment proposer une écoute. Et donc, être là et écouter sans apporter de conseils non sollicités, sans commencer à dire, si j'étais à ta place, je ferais ça. Non, c'est pas le lieu. Si on a envie un petit peu d'écouter l'autre, ça peut vraiment être important de pouvoir être là à l'écoute. Et éventuellement, s'il y a une demande qui émerge de la part de la personne, l'aider dans une démarche d'information, de recherche d'aide extérieure pour aller plus loin. Mais vraiment, je crois que dans un premier temps, c'est parler de soi et être présent pour l'autre. Dans le cadre d'une consultation d'une professionnelle de la santé mentale, je dirais que le plus important, notamment des études en parlent, c'est d'aller voir un professionnel à qui on se sent à l'aise, quelle que soit son approche, qu'il soit systémicien, humaniste, analyste, peu importe. Je crois que chaque approche peut être intéressante. Certains ont des préférences, mais le plus important dans la réussite d'une thérapie, c'est le lien entre le thérapeute et le patient. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un point d'attention à avoir.
À ce titre, si la première consultation est un échec selon nous, faut-il s'arrêter là ou justement par rapport à ce que tu viens de dire, conseilles-tu d'aller vers un autre praticien ?
Alors, la recherche d'un psy, c'est pas que c'est une quête, mais c'est important de pouvoir expérimenter différentes pratiques, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est un métier humain. Donc, est-ce que la personne en face de moi, elle m'est agréable ? Est-ce qu'elle est à l'écoute ? Est-ce qu'elle est présente ? Est-ce que je vais être à l'aise ? Et donc, effectivement, parfois, il est nécessaire de voir différents praticiens pour voir est-ce que je suis à l'aise avec un homme, avec une femme, une approche très directive ou pas du tout. Et du coup, c'est génial, parce que ça va permettre à tout un chacun de trouver ce qui est juste pour lui. C'est vraiment ça. Je dirais, c'est d'utiliser son compas intérieur pour voir, ok, je me sens bien avec cette personne, je me sens respectée, entendue, hop, on va pouvoir bosser. Et l'alliance dont je parlais, c'est l'alliance thérapeutique, et effectivement, ça se construit, c'est pas au bout de la première séance, parce que de toute façon, les premières séances sont dédiées à l'analyse de la situation, l'analyse de la demande, de la rencontre, de la création du lien, et donc ça se construit. Et du coup, le conseil, ça serait de dire, prenez le temps de trouver quelqu'un qui puisse vous correspondre.
Est-ce qu'il y a des moyens de prévention qui sont mis en œuvre aujourd'hui en Europe ou en Belgique ?
J'ai envie de dire qu'on se trompe un peu de cible en termes de moyens de prévention. Hein. C'est qu'on va intégrer cette question de cyberdépendance dans des sphères proches de la toxicologie, par exemple. Hein. Et donc, on va avoir souvent des réflexes de prévention qui sont un peu semblables à ce qu'on fait à propos de la drogue. Hein. C'est-à-dire, avant tout, mettre l'accent sur les effets délétères des écrans, hein, en agitant toute une série de chiffons rouges, en disant c'est pas bien. Alors, souvent, sous la forme de deux axes de prévention, la question des valeurs, c'est pas bien, hein, parce que on y perd son temps, parce que c'est du jeu, et donc il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Et le deuxième axe, qui est à mon avis plus problématique, c'est l'axe de la pathologisation des pratiques normales, avec le risque qu'à l'avenir, on développe, et ça existe déjà, des centres de cure, de désintoxication des écrans, voire même plus tard, et on arrivera peut-être à ça un jour, des prises médicamenteuses qui vont permettre de résoudre le problème, alors que ça, c'est plutôt mon regard sociologique. La question des difficultés liées aux écrans, elle est plutôt à situer dans un contexte familial ou dans un contexte social de l'individu, plutôt qu'à un lien excessif à un écran qui serait par définition addictogène.
Justement, à ce titre, par rapport aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, quels seraient les conseils pour adopter un usage plus raisonné du numérique ?
Outre les trois A que j'ai cités précédemment, c'est dans la mesure du possible de pouvoir formuler des autodiagnostics, d'être capable soi-même d'évaluer où on en est par rapport aux écrans, voire même en établissant des comparatifs par rapport aux autres. Hein. Ce qui est intéressant dans l'étude Génération 2020 qu'on a menée auprès des adolescents, c'est qu'eux-mêmes estiment par exemple que 64% des adultes sont beaucoup trop sur les écrans et que ça empêche une série de choses, notamment des contacts avec les adultes. Donc l'idée, c'est de pouvoir se situer par rapport aux usages des autres et puis se dire finalement que la question du temps passé sur les écrans, c'est pas le problème du tout. En fait, c'est le problème chez les adultes. Ça, on a beaucoup mesuré ça dans cette enquête Génération 2020, c'est l'obsession qu'on peut avoir par rapport au temps passé sur les écrans. C'est d'ailleurs souvent la porte d'entrée de la plupart des articles de presse consacrés aux écrans. Nos adolescents passent aujourd'hui plus de 5 heures par jour sur les écrans, plus de 4 heures sur leur smartphone, etc. Et la conclusion vient toute seule, ils sont donc cyberdépendants. En réalité, quand on travaille avec les adolescents, ce qu'on constate, c'est que les adolescents ne n'imaginent pas être sur les écrans. Ils sont en train de discuter avec leurs amis, ils sont en train de faire des recherches, ils sont en train de s'amuser à des jeux. Bref, ils mènent toute une série d'activités qui, pour eux, sont bien largement déterminantes et supérieures à la question du temps qu'ils y passent. Ils ne savent pas dire combien de temps ils sont sur les écrans. Par contre, ils savent dire combien de temps ils ont discuté avec leurs potes, combien de temps ils ont passé à faire des recherches, combien de temps ils ont joué en ligne. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à une espèce d'évaluation des pratiques. Qu'est-ce qu'on y fait plutôt que où suis-je ? Combien de temps sur quel écran ? Et donc là, je pense qu'à partir de là, on peut arriver à réguler soi-même ses propres pratiques.
Donc pour compléter ce qui a déjà été apporté, je dirais que le point de départ, c'est d'analyser sa consommation et de se dire, tiens, voilà, il y a aujourd'hui dans tous les téléphones, il y a une analyse très, très détaillée de le temps qu'on y passe et qu'est-ce qu'on y fait. Donc se dire, tiens, voilà, d'être curieux en fait par rapport à sa consommation, se dire, tiens, je remarque que je passe beaucoup de temps peut-être sur Instagram, sur YouTube, sur la boîte mail justement, la boîte mail pro, etc. C'est juste être curieux par rapport à sa consommation et faire un peu une photo authentée et de regarder un petit peu déjà qu'est-ce qui se passe quand on regarde les chiffres. C'est marrant quand je vois que, j'invente, hein, je passe 4 heures sur mon téléphone, j'ai un peu mal au ventre, j'ai un peu honte, etc. C'est venir rencontrer, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je regarde tout ça. Donc, c'est finalement être très à l'écoute de soi et puis de regarder un petit peu sa propre consommation. Et ensuite, éventuellement, se dire, bah, tiens, moi, quand je vois ça, ça me convient pas. J'ai envie d'autre chose. Et donc, pourquoi pas utiliser les outils qui sont à disposition dans les téléphones, à savoir si on a envie de, si c'est quelque chose, évidemment, de volontaire, de diminuer ou de faire évoluer sa consommation de temps d'écran, ça serait peut-être de retirer les notifications de certaines applications. Ça peut être de mettre son téléphone en silencieux, activer le mode ne pas déranger, pouvoir mettre son téléphone en noir et blanc pour être moins stimulé par rapport aux couleurs, évidemment rouge, etc. Tous ces trucs-là. Donc, de pourquoi pas utiliser ce qui est à notre disposition pour faire évoluer sa consommation vers quelque chose qui est plus juste pour nous. Et éventuellement, pourquoi pas en parler aux autres, dire tiens, qu'est-ce que tu fais toi pour. Imaginons, on prend l'exemple des étudiants en blocus, voilà, j'ai du mal à décrocher, j'ai envie, j'entends une notif, je fonce sur mon téléphone, il y en a, voilà, ils vont pouvoir peut-être le mettre dans un tiroir, l'éteindre, le mettre en mode avion, voilà, d'expérimenter un peu différentes choses pour voir qu'est-ce qui se passe quand on fait différemment. Évidemment, le point de départ, c'est son propre besoin. Certaines personnes vont être très à l'aise avec le fait de consommer un temps d'écran de X temps et d'autres pas du tout. C'est de voir, bah tiens, par rapport à soi-même, comment on se sent et d'ajuster en fonction. Et éventuellement, demander de l'aide si on se sent dépassé et qu'on a l'impression d'être complètement en perte de contrôle, de ne pas pouvoir gérer l'impulsion, de regarder très régulièrement certaines applications, de demander de l'aide.
Merci Kim. Yves, je reviens sur l'enquête dont vous avez parlé, Génération 2020. Où est-ce que je peux trouver cette enquête? Où est-ce que je peux me la procurer?
Le plus simple, c'est de taper Génération 2020 Média Animation dans Google et vous trouverez le PDF qui est évidemment disponible de façon gratuite. Hein, donc, Génération 2020 Média-Animation.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitiez dire à ce sujet ou par rapport à cette enquête?
Oui, donc c'est de nouveau revenir sur les dangers qu'il y a à utiliser trop rapidement la métaphore de la drogue. Donc je le rappelle, il n'y a pas de substance psychotrope dans les écrans. L'OMS précise qu'il y a toujours un retour possible à un usage raisonné des écrans. Donc ce n'est pas du tout comme une toxicomanie où vous savez, vous arrêtez de fumer. Bah, si vous reprenez une cigarette, vous êtes susceptible de repartir sur les mêmes consommations problématiques qu'auparavant. Mais aujourd'hui, la pensée commune veut faire des écrans une toxicomanie comme une autre. Ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, il y a aussi la question qui est souvent mise en évidence du circuit de récompense, de la dopamine. Effectivement, oui, c'est vrai. Nous sommes récompensés quand nous avons une activité de jeu ou une activité d'écran. Quand nous recevons un like, nous avons une petite dose de dopamine supplémentaire, mais c'est la question de la récompense à toute activité de plaisir. Vous caressez votre chien, vous avez aussi une augmentation du taux de dopamine. À supposer que manger un hamburger vous donne sur une échelle de 1 à 100 une dose de dopamine, faire l'amour c'est deux doses, recevoir une récompense dans un jeu vidéo ou à travers des likes sur les réseaux sociaux c'est 1,5, la cocaïne c'est 100 et d'autres drogues plus actives encore c'est 1000 ou 10 000. Donc ça n'a rien de comparable de nouveau avec ce qu'on observe dans les cas d'accoutumance à des substances quelconques.
Merci. Et pour revenir sur cette question, que serait un usage raisonné d'un outil numérique à l'heure actuelle?
Alors un usage raisonné, c'est un usage qui serait fondé sur l'autocontrôle, sur le contrôle par l'individu de ses propres activités, en dépit du regard parfois ironique, circonspect, alarmiste ou inquiet de l'entourage.
Je dirais que ce qui me paraît intéressant d'ajouter, c'est déjà d'avoir une vision globale de son utilisation, donc du temps, entre guillemets, obligatoire lié aux études, lié au travail ou lié, par exemple, je ne sais pas, aux tâches administratives, de payer les factures, etc. Et différencier le temps de loisir et de voir qu'est-ce qu'on y fait et de voir qu'est-ce qui nous apporte du plaisir. Qu'est-ce qui nous est vraiment agréable et qu'est-ce qui est plutôt utilisé en termes de compensation ou pour un petit peu s'éloigner de problèmes du quotidien. Alors, je ne dis pas que c'est un souci en soi. C'est plus de dire, tiens, est-ce que j'ai beaucoup de comportements d'évitement ou pas? Comment je l'utilise et à quelle finalité? Est-ce que c'est parce que ça me fait plaisir 100%? Très bien, trop chouette. Quelqu'un qui aime bien une application de... Je sais qu'il y a des jeux où on doit construire une ferme ou je ne sais quoi. Si la personne est heureuse comme ça, très bien. Mais si c'est utilisé systématiquement quand il y a, par exemple, une notification d'un mail du boss qui arrive et qu'on la met de côté côté, mais par contre qu'on va jouer, c'est de se dire, tiens, quelle est l'utilisation et quel est son contexte. Je dirais que c'est surtout avoir une conscience de ce qu'on fait et éventuellement mettre en lumière tout ce qui peut être comportement d'évitement et par rapport à quoi, de regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous finalement, quelles sont les racines éventuellement problématiques. Et donc, dans la question de la consommation, c'est intéressant, voilà, effectivement, il y a des études qui sont menées plus axées sur les adolescents, mais c'est aussi important, je pense, de considérer que la consommation d'écran nous concerne tous à des échelles différentes et surtout sur des types d'utilisation différentes. Je pense qu'entre guillemets, à partir d'un certain âge, c'est aussi intéressant de voir, bah tiens, comment on utilise les écrans et est-ce qu'on a plutôt des activités dites passives où on va consommer du contenu et de scroller pendant des heures, je ne sais quelle appli, ou alors plutôt être dans une recherche, bah voilà, je ne sais pas, je m'intéresse tout d'un coup aux araignées et du coup je vais commencer une recherche active parce que je trouve ça chouette, mais voilà, se dire qui consomme, bah tout le monde. Et du coup, peut-être élargir le champ de questionnement, de dire, voilà, il y a les jeunes, mais il y a aussi les adultes et même parfois les personnes un peu plus âgées qui ont aussi peut-être une certaine consommation et de voir, tiens, qu'est-ce qu'ils font sur ces écrans.
Dernière question avant de clôturer ce podcast. Si j'ai besoin d'informations, si je veux me renseigner sur ce sujet ou sur un usage plus raisonné ou sur ma santé mentale, mon bien-être avec le numérique, quelles sont les sources d'informations que conseillez-vous, Kim?
Alors, ce que j'aurais envie de dire, c'est peut-être d'aller contacter quelqu'un de confiance, quelqu'un dans son propre environnement, ou alors quelqu'un qui travaille, ben, ça dépend quel point de vue on a, mais si on est étudiant, pourquoi pas aller parler de ça, notamment vers moi, ou peu importe, enfin l'assistante sociale, et d'échanger avec quelqu'un. Parce que dans la prise d'information, il y a aussi toute la nécessité peut-être d'être compris dans sa difficulté, parce que qui dit consommation d'écran, mais c'est, d'accord, ça c'est un prisme, mais il y a tellement d'autres choses dans cette réalité d'une précarité étudiante qui est là, des inquiétudes parce que le bail du code il se termine, etc. Enfin voilà, pour pouvoir peut-être être entendu de manière globale et de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour cette personne, pour être entendu. Je dirais que c'est ça. C'est pourquoi pas aller vers quelqu'un qui pourrait nous entendre dans notre globalité. Ça serait la porte d'entrée, mais il y a d'autres choses peut-être à aborder pour voir, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour cette personne.
Merci Yves Collard, merci Kim Balara d'avoir participé à cet épisode du podcast Vers un équilibre digital proposé par la cellule Transition et le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir exploré avec nous des solutions pour tendre à l'équilibre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.